C'est maintenant et c'est pour vous sur Radio Nîmes 92.2.
Amis auditeurs et auditrices de Radio Nîmes, nous retrouvons Harriet Howard et Louis Napoléon. Les élections approchent et le suspense grandit. Afin de tuer le temps jusqu'à un triomphal retour, Louis-Napoléon dépensait son trop-plein d'énergie avec deux créatures de 18 printemps avant de s'en retourner lire les journaux en compagnie d'une Miss Howard qui le pensait occupé à se documenter sur l'artillerie de la Tour de Londres. Or, il se trouva que des membres de l'ex-famille impériale venaient de se trouver élus, des élections complémentaires étant prévues en juin. On décida de mettre le paquet entre articles de journalistes, chansonniers, dessinateurs, colporteurs de brochures, surfant sur la nostalgie de la gloire napoléonienne. Cela nécessitait des moyens financiers considérables que Louis ne possédait pas. Miss Howard lui vendit alors à crédit des propriétés italiennes, sur la valeur desquelles il se fit prêter l'argent nécessaire. Le marquis de Pallavicino prêta une somme conséquente que Harriet compléta par la vente de bijoux. Et nanti de ce trésor de guerre, la campagne électorale de Louis-Napoléon put inonder le pays de portraits de son oncle et de lui-même, de récits de l'épopée napoléonienne plus ou moins authentique, de chansonnettes laudatrices, et ce déferlement publicitaire porta ses fruits puisque le candidat fut élu dans 4 départements. Comme des partisans enthousiastes le voyaient déjà sacré empereur et le manifestaient bruyamment, provoquant même des échauffourées à la Chambre, certains, au nombre desquels Lamartine et Ledru-Rollin, voulurent faire invalider l'élection du Trublion, mais finalement on la maintint sur la présupposition naïve que ce Bonaparte serait dilué dans les valeurs républicaines. Victor Hugo, ex-monarchiste, ex-laudateur de Napoléon Ier, était de ceux-là. On lui laissa d'autant plus volontiers le gain électoral que le prince avait faim de se retirer si son élection devait amener des troubles, et le fait de donner sa démission l'avait transformé en martyr. Les élections complémentaires arrivaient qui allaient permettre de transformer l'essai grâce au secours financier d'Harriet qui y laissa ses plus beaux bijoux, ses écuries et son argenterie pour faire éclore des clubs bonapartistes surfant sur un mécontentement populaire du fait de la fermeture des ateliers nationaux. Le 17 septembre, Louis se trouva élu dans 5 départements, choisit la députation de Lyon, traversa la Manche et s'installa à Paris, hôtel du Rhin, avant de faire une première apparition à l'Assemblée, où son élocution pénible et son accent allemand à couper au couteau le firent passer pour un imbécile, ce qui entrait dans les plans de Harriet. Cette dernière vendit ses bijoux, sa maison de Londres et ses meubles pour asseoir la popularité du prince. Des pickpockets furent embauchés non pour vider, mais pour garnir les poches des passants, d'aigles en médaillon. Au carrefour, on vendait des portraits de son oncle dont le neveu figurait au verso. Toute cette propagande habile amena en décembre un raz-de-marée à l'élection présidentielle, remportée par Louis-Napoléon avec plus de 5 500 000 voix sur un peu plus de 7 300 000. Les autres candidats étaient écrasés et restaient sans voix. Le 20 décembre, le prince devenait président de la République, jurait fidélité à la Constitution, et prenait ses quartiers à l'Élysée, tout en se hâtant de loger Miss Howard à proximité immédiate. Notre voyageuse, en attente d'embarquement dans son auberge normande, se repasse avec orgueil ce triomphe qui est aussi le sien. Pourtant, le fait de s'afficher lors de cérémonies officielles non loin de son prince et amant ne faisait pas que des heureux. Si le peuple se félicitait d'avoir un président égrillard et plus que porté sur la chose, la bourgeoisie, elle, ne se privait pas de critiquer un manque de décence affiché. En définitive, Louis-Napoléon, lorsqu'il passait du temps avec son Anglaise, était heureux de trouver un foyer chaleureux où il pouvait pantoufler en compagnie d'une jolie femme avant de s'ébattre voluptueusement, puis de regagner l'Élysée. Justement, l'Élysée était terre interdite pour Harriet car la princesse Mathilde en avait fait sa chasse gardée, poussant Louis à fréquenter assidûment les petits rats d'opéra afin de le détourner de la maudite Anglaise. Louis ne s'en tint pas là, il tenta de séduire une comédienne de renom, Madeleine Brohan, mais se cassa les dents.
On se parle, on partage, on comprend, on apprend, on se détend. Radio Nîmes.
On a tous essuyé les refus, Satan le cuir des séducteurs,
te faire très mal, le sais-tu? Que c'est vulnérable, un dragueur. C'est très salissant, l'amour propre. Surtout quand le lion prend la fuite pour séparer une antilope qui d'un coup de patte le décapite. Y'a le râteau héroïque qui se ramasse en public. Le râteau coin sur les i, t'es lourd maintenant, ça suffit. Le râteau dit d'Alzheimer, c'est la même fille que tout à l'heure. Le râteau de la méduse pour le jeu de mots, je m'excuse. Y'a le râteau bouleversant, cette fille tu l'aimais vraiment. Et le râteau superflu, au fond elle te plaisait plus. Le râteau qui coûte un genou parce que ta bague elle s'en fout. Si elle te gifle le chapeau, c'est la cerise sur le râteau. Au jeune loup qui renonce, le vieux explique avec sagesse. Pour 20 anglaises qui te repoussent, y'en a bien une qui dira yes. En boîte de nuit, ça devient extrême quand tu les reçois à la chaîne. Tout le monde est bien témoin, t'es prêt à tout, t'es mort de faim. Et la honte, ça te fait plus rien. Y'a le râteau qui se la pète quand la fille est une vedette. Le râteau anti-grosse tête parce que c'est toi la vedette. Le râteau du coming out qui est un râteau comme les autres. Celui qu'on veut oublier qui souvent est le premier. Le râteau du romantique qui le rumine en musique. Le râteau des mecs pas bien avec la femme des copains. Et le râteau de l'erreur parce qu'en fait c'était sa sœur. Le râteau à répétition quand elle dit non c'est...
Non.
Bah voilà. Doivent-elles devant leurs copines de leur dédain au vitriol vous arracher le cœur de la poitrine avant de rouler dessus en bagnole, alors qu'un sourire bienveillant dirait avec ménagement c'est pas la peine qu'on perd notre temps, qu'on est gentil mais que va-t'en.
Tu me lâches maintenant.
Y'a le râteau du mari, c'est ma femme, t'es gentil. Le râteau du hérisson, ça pique mais c'est trop mignon. Le râteau de Georges Clooney, s'il existait ça se saurait. Quant au dernier des râteaux, rassure-toi c'est pas de sitôt. Le râteau du gentleman, toujours poli avec les dames. Le râteau condescendant, bon mais pour qui elle se prend. Si t'aurais pu éviter, il suffisait de pas lui parler. Le râteau qui t'inspire,
t'en feras une chanson pire.
Ah bah c'est marrant, oui bah c'est pas marrant, y'a rien de marrant maintenant. Non, oui, bah me parle pas. T'as raison, fais comme si j'étais transparent. Voilà. Tourne-moi le dos et attends, voilà. Oh, mais c'est joli ça, je peux toucher, non? Ok. Ne tape pas, arrête une griffe. Non, j'y vais, bah je. Bonsoir. Non, oui, je dépose? Non, d'accord. Très bien.
Fort dépité, notre impénitent séducteur, lors du grand dîner qui suivit la rebuffade, fit le museau et en attribua sa triste mine à la grave crise que traversait le pays. Une revanche s'imposait et ce fut une petite comédienne israélite à fort tempérament qui consola notre prix à pic. Elle se nommait Rachel. Lui succéda une autre comédienne, Alice Ozzy. Les conquêtes éclectiques du prince allaient d'une fille de charcutier à de grandes dames, marquise de Belleboeuf, qui précéda une lady anglaise, qui céda à son tour la place à la comtesse de Guillon. Enfin, Louis s'attaqua à la comtesse Lehon, femme de l'ambassadeur de Belgique et accessoirement maîtresse du demi-frère du président de la République, le fameux duc de Morny, qui déclarera ultérieurement avec un certain humour trempé dans la vérité historique qu'il était fils de reine, petit-fils d'évêque et frère d'empereur. Celui qui portait le nom de De Morny en un seul mot, nom de la famille dont il était faussement issu pour dissimuler la grossesse adultérine de sa mère la reine Hortense, De Morny donc, était devenu le comte de Morny, un beau dandy cultivé aux nombreuses conquêtes féminines, parmi lesquelles la femme de l'ambassadeur, une créature superbe nommée l'ambassadrice aux cheveux d'or, une ambassadrice qui comptait déjà comme amant Philippe d'Orléans. Le couple de Morny et Lehon devint emblématique de l'élégance et des bons mots, au vu et au su de tous, à tel point que lorsque l'ambassadrice accoucha d'une petite fille, on chantonna « C'est la fille à Monsieur Aon », Mort n'y soit qui mal y pense. Pour s'attacher l'affection du duc de Morny, qui avait tendance à batifoler tous azimuts, la comtesse Léon lui procura des subsides qui permirent au Bellâtre d'acquérir une raffinerie qu'il fit prospérer, ce qui lui finança une carrière de député. Morny était monarchiste. Louis Bonaparte n'était pas sa tasse de thé, enfin, jusqu'au moment où il fut élu président de la République. Morny lui demanda alors audience et les demi-frères se rendirent compte qu'ils se ressemblaient physiquement à un point inimaginable, Morny étant la version séduisante et Louis la caricature du même homme. À défaut de sympathiser, ils devinrent compères pour préparer la mort de la République. Morny, le royaliste, espérant qu'à défaut de l'avènement du régime souhaité, il décrocherait un poste de ministre dans l'Empire à venir. Pour l'heure, Louis-Napoléon, élu pour 4 ans, ambitionnait de faire prolonger son mandat et d'obtenir une rallonge de ses frais de représentation. Mais on lui opposa un refus catégorique, tout comme sa proposition de réforme de la Constitution qui fut également rejetée. Que faire pour garder la main et le train de vie? La force secrète de Louis était son obstination à tenir le cap pour devenir un jour le maître du pays, en faisant fi des critiques acerbes sur son physique, son intelligence prétendument limitée, car passer pour un fief et crétin était un atout dans cette république où les factions divisées seraient aisées à circonvenir. Louis plaçait ses hommes en prévision du coup d'État, une opération secrète connue de Morny et de Miss Howard, dont la concrétisation était fixée au 2 décembre, date anniversaire d'Austerlitz et du sacre de Napoléon Ier. Lorsque les préparatifs trouvaient un obstacle intellectuel, Louis s'éclaircissait l'esprit en besognant 2 à 3 femmes par jour, puis revenait à son entreprise. Morny s'occupait de noyauter l'armée et de préparer l'opinion, tandis que Miss Howard vendait ou hypothéquait ce qui restait de ses biens et bijoux pour apporter 200 000 francs or au projet, qui prenait corps, à tel point que des rumeurs en faisaient état, mais c'était pour considérer la chose comme improbable. Restait à trouver comment dissimuler l'opération. Louis organisa le jour J une grande réception à l'Élysée et donna le change en bavardant avec les invités, s'éclipsant brièvement dans son cabinet pour remettre le dossier préparant le coup de force, contenant les affiches à placarder et donnant aux complices les instructions ainsi que leur poste dans le futur gouvernement. Puis notre prince aventurier s'en alla dormir, demandant à être réveillé à 5 heures. Tandis qu'il dormait du sommeil du juste, le palais Bourbon était occupé par le 42e de ligne et 60 arrestations étaient opérées chez les militaires et les politiques, parmi lesquels Thiers, qui fut transféré au fort de Ham avant de se voir expédié en Allemagne. L'aube se leva sur un Paris couvert d'affiches annonçant le coup d'État. Louis-Napoléon s'offrit le luxe de parader en grande tenue, protégé par un peloton de cavaliers, et ce défilé s'accomplit sans heurts, bien qu'on eût signalé de l'agitation dans les faubourgs. Il faut dire que les principales artères et les lieux stratégiques étaient gardés par l'armée dont 200 000 hommes encerclaient par ailleurs la capitale. Il y eut bien une 40aine de députés qu'il fallut tirer par la culotte hors du palais Bourbon, une poignée de morts et blessés et un comité de résistance animé par un Victor Hugo oublieux de l'époque pas si lointaine où il s'extasiait du faste du couronnement de Charles X. L'une des morts les plus stupides fut celle du député Alphonse Baudin, alors que certains de ses collègues s'avançaient à la rencontre des soldats pour parlementer, des ouvriers persiflèrent en demandant aux élus s'ils pensaient vraiment que des travailleurs allaient se faire trouer la peau pour leur conserver leurs 25 francs par jour. Baudin, à ces mots piqués au vif, grimpa sur la barricade en s'exclamant « Vous allez voir comment on meurt pour 25 francs ». Son vœu fut exaucé puisqu'en riposte à un coup de feu parti de la barricade, une balle tirée par la troupe lui troua le front. On lui fit des statues fondues l'une après l'autre avant de transporter ses cendres au Panthéon. Amis, auditeurs et auditrices de Radio Nîmes, le coup d'État de Louis-Napoléon va le propulser très haut. C'est ce que nous verrons lors de notre prochaine rencontre.
J'ai tant caché mes différences sous des héros, des faux semblants. J'ai cru que d'autres cru pas des danses, me cacherais aux yeux des gens. Je n'ai jamais suivi vos routes. J'ai voulu tracer mon chemin pour aller plus haut, aller plus haut. L'on oublie ses souvenirs, aller plus haut. Je vivais. Je n'ai pas su te dire je t'aime.